Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Grand Large. Aujourd'hui, je serai entouré de Luc, Michael et Arnaud pour parler d'un sujet qui ne laisse personne indifférent, le handicap. En effet, nous côtoyons tous ou nous avons côtoyé des personnes souffrant d'un handicap. Arnaud va tout d'abord nous parler des différents types de handicap. Bonjour Arnaud.
Bonjour Étienne.
Alors Arnaud, quels sont les différents types d'handicap qui peuvent affecter une personne ?
Donc on peut distinguer 5 grandes catégories de handicap. Il y a le handicap moteur, sensoriel, psychique, mental ou intellectuel et les maladies invalidantes. Le handicap moteur, c'est la première image que l'on a quand on parle d'handicap. En effet, dès que l'on parle d'un handicapé, on s'imagine quelqu'un en fauteuil roulant. Donc le handicap moteur recouvre l'ensemble des troubles pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale de la motricité, notamment des membres supérieurs et ou inférieurs. Les handicapés moteurs ont des difficultés pour se déplacer, conserver ou changer d'une position, prendre, manipuler un objet ou encore effectuer certains gestes. Ensuite, il y a le handicap sensoriel, qui regroupe les difficultés liées aux organes sensoriels, et plus particulièrement le handicap visuel, qui concerne les personnes aveugles, mais aussi, dans la majorité, les personnes malvoyantes. En effet, même ceux qui portent uniquement des lunettes et des lentilles sont considérés comme handicapés visuels. Le handicap auditif, c'est une perte auditive soit totale, mais c'est très rare. La plupart des déficients auditifs possèdent des restes auditifs, quand même, qui peuvent être réglés grâce à des prothèses auditives, ou qui apporte une réelle amplification. Selon les cas, ce handicap peut aussi être accompagné d'une difficulté à parler.
Et au niveau du handicap psychique ?
Oui, alors le handicap psychique résulte des troubles mentaux ou d'une maladie psychique, comme la névrose, la psychose, les dépressions ou la dépendance. Il se traduit par un dysfonctionnement de la personnalité sans nécessaire atteinte des capacités intellectuelles. Donc on peut très bien avoir toutes ces capacités intellectuelles, mais à côté de ça, avoir une névrose, une psychose ou quelque chose comme ça.
D'accord. Voilà.
Ensuite, il y a le handicap mental ou intellectuel. Donc c'est une difficulté à comprendre une limitation dans la rapidité des fonctionnements mentaux sur le plan de la compréhension, des connaissances. Donc un handicapé mental peut se repérer dès son enfance à l'école s'il a des difficultés d'attention ou de compréhension.
Okay. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des maladies invalidantes ?
Et si, il y a aussi des maladies, par exemple des types respiratoires, digestives, parasitaires, infectieuses, comme le diabète, l'hémophilie, le sida ou encore le cancer. Et ces maladies peuvent être un vrai handicap pour les personnes dans leur vie.
Merci Arnaud pour toutes ces explications. Le handicap n'a pas toujours été perçu de la même façon au cours de l'histoire. Et Michael va donc nous retracer cette évolution. Bonjour Michael.
Bonjour Étienne. Donc effectivement, la notion de l'handicap a évolué. Donc je vais citer quelques exemples historiques. Donc on peut parler des premières interventions politiques autour du sujet du handicap qui remontent en France au XVIIe siècle avec la création de l'Hôtel des Invalides par Louis XIV en 1670 et de l'Hôpital Général, qui est plus un lieu privatif de liberté et de contrôle du vagabondage que de soins. Il faut attendre le début du 19e siècle pour que l'hôpital devienne un lieu de soins et d'éducation spécialisé pour les malades mentaux et les enfants mentalement déficients. Et aussi, bien plus tard, la Seconde Guerre mondiale a été marquée par la mort de 40 000 malades et handicapés mentaux en France, du fait que ces bouches inutiles ne sont plus nourries. Force est de constater cette euthanasie, dite douce, influencé par l'eugénisme du programme nazisme et par la Fondation française pour l'étude des problèmes humains créés sous Vichy.
Ça veut dire qu'on a laissé des personnes mourir sans soins.
Oui, effectivement. Donc suite à ça, il y a eu un traumatisme. Et la psychothérapie institutionnelle et la psychanalyse vont voir le jour, et ce en réaction au drame psychiatrique durant la Deuxième Guerre mondiale. les psychanalystes de cette seconde moitié du XXe siècle vont militer pour une prise en charge plus humaine dans la localité où vit le malade et dans de petits établissements médico-sociaux encadrés par du personnel éducatif. L'abbé Auziol et François Tosquel créent le Clos du Nid, établissement recevant des enfants profondément arriérés en Lozère en 1955.
D'accord, donc on reconnaît plus ces personnes souffrant de cet handicap comme des hommes et non plus comme souffrant et devant être à la marge de la société.
Oui, des personnes à reconnaître comme hommes à part entière.
D'accord, ben merci Michael. Nous reviendrons après une petite pause musicale.
Très belle œuvre de Camille Saint-Saëns. Maintenant, nous allons poursuivre. Donc, je suis allé poser quelques questions sur le domaine de l'éthique au père Sébastien Clame, professeur dans une école de sages-femmes d'éthique. Il est aussi président du comité d'éthique à Metz, le comité d'éthique Saint-André.
Bonjour mon père, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce comité d'éthique ?
Alors, le comité d'éthique Saint-André de Metz a été créé en 1993 et il regroupe en son sein un certain nombre de professionnels de la santé, mais également toute personne intéressée par la réflexion éthique à l'heure actuelle. Et ce comité a donc pour mission d'informer le grand public à travers l'organisation de journées d'études, l'informer sur des sujets d'actualité, des sujets éthiques relatifs à l'éthique de la santé. Donc informer, mais aussi du coup former, parce que ce comité est aussi très attentif à la formation de ses membres en participant notamment à un certain nombre de colloques qui sont organisés au long de l'année et qui proposent donc des réflexions sur des sujets que la société suggère à travers les débats que l'on peut retrouver tant en début de vie qu'en fin de vie, ou encore la question par exemple du handicap au sein de la société.
Justement, concernant le thème d'aujourd'hui, peut-on donner une définition de l'handicap aujourd'hui ?
Alors, je crois que c'est toujours un peu délicat et difficile de donner une définition quand on sait que dans la mesure où on définit quelque chose, c'est-à-dire on l'enferme dans des concepts. Et le handicap ou la personne handicapée, si on essaye effectivement de la définir, c'est aussi quelque part peut-être porter un regard péjoratif ou stigmatisant sur des personnes qui sont liées à des incapacités ou à des handicaps moteurs, handicaps mentaux. Je dirais tout d'abord que le terme même de handicap, qui vient de l'anglais « hand in cap », hein, signifie la main dans le chapeau, en fait c'est un terme qui est repris par des turfistes pour signifier notamment qu'il y avait avant toute course, un tirage au sort. Le but, en fait, c'était d'alourdir un cheval vaillant de sorte à ce que tous les chevaux aient la même chance d'arriver en même temps au point final. Alors si on retrouve, si on garde cette idée dans notre esprit, on va quand même essayer non pas peut-être de définir le handicap tel qu'on l'entend actuellement, mais se référer à une classification internationale du handicap qui a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé en 1980 et qui cette classification donnait lieu à trois niveaux, si on veut. Un niveau tout d'abord lésionnel, donc relatif à la déficience, un niveau fonctionnel relatif à l'incapacité et un niveau situationnel relatif là au handicap en tant que tel. Alors, bien entendu, on a également en France un certain nombre de lois qui évoquent la question du handicap. Je me référerai à la dernière en date, la loi de 2005, qui définit le handicap de la façon suivante. Il est écrit dans cette loi de 2005, le handicap, enfin, constitue un handicap toute limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant. On voit donc que le handicap touche un certain nombre de situations bien précises de la vie, mais pour autant, le but n'est pas de stigmatiser, d'enfermer ces personnes dans des lésions, dans des incapacités, mais de leur permettre aussi de s'intégrer le mieux possible au sein de la société.
Quels sont maintenant les moyens entrepris dans notre société pour pouvoir insérer au mieux les personnes handicapées ?
Alors les moyens sont très vastes, moi je ne suis pas forcément le plus à même de répondre à cette question, parce qu'il faudrait notamment se référer un peu à tout le travail social qui a en vue l'intégration des personnes handicapées. Simplement ce qui me semble important, c'est bien de saisir, de comprendre que la personne handicapée n'est pas une personne à part, mais une personne qui fait partie entièrement de la vie en société. Et j'aime bien me référer à ce qu'une personne handicapée écrivait, alors ça remonte déjà un peu, parce que c'était il y a 10 ans, dans La Croix, le quotidien La Croix, il y avait un article qui était consacré à la place des personnes handicapées, et cette personne, elle disait très clairement que la personne handicapée est un citoyen à part entière et non entièrement à part. Et de poursuivre, le handicapé, s'il est un acteur de la vie économique comme un autre, est aussi un acteur social. Notre société doit apprendre à ne plus agir pour le handicap, mais avec celui-ci. Je pense que là, c'est une conviction qu'il nous appartient de faire nôtre aujourd'hui pour trouver la juste place qui puisse concerner tant les personnes appelé personne handicapée que tout autre citoyen qui a peut-être des facilités ou qui ne subit pas quelque part d'une donnée extérieure des pressions qui feraient de lui une personne handicapée.
Bah, mon père, je vous remercie pour toutes ces informations.
Donc après cette définition éthique du handicap, Luc va essayer de nous donner quelques pistes pour savoir comment réagir face à quelqu'un qui souffre d'un handicap. Bonjour Luc.
Oui Étienne, effectivement, comment finalement peut-on appréhender cette relation avec une personne handicapée maintenant qu'on a un petit peu placé donc le contexte. Tout d'abord, bon, c'est vrai que je ne suis pas spécialiste du tout de la chose, mais je pense que il faut de toute façon savoir être vrai avec cette personne, faire preuve de délicatesse. Disons, parce qu'on peut souvent être un petit peu surpris par la spontanéité, notamment des personnes qui ont un handicap mental, qui parfois on sent qu'elles sont peut-être un peu dans un autre monde, et c'est souvent aussi pour ça que c'est un monde que l'on n'arrive pas à comprendre. Et donc on ne cherche pas de toute façon forcément le contact et on a donc aussi une appréhension, on a parfois peur de ce contact. Je pense que ces personnes, une fois qu'on a réussi à faire le premier pas, après disons qu'il faut souvent, il ne faut pas hésiter aussi à les recadrer gentiment quand il y a des gestes peut-être un petit peu qui font, parce que bon, des personnes autistes, des choses comme ça qui font des gestes qu'ils ne mesurent pas, sachant qu'en fait ces gens sentent quand on les prend en pitié, ils peuvent sentir beaucoup de choses, beaucoup peut-être plus que ce qu'on pense. comme par exemple quand on parle à côté d'une personne qui est atteinte d'une maladie déficiente comme Alzheimer, quand on parle de cette personne alors qu'elle est à côté de nous, elle peut tout à fait comprendre ce qu'on lui dit, même si elle va pas forcément réagir. Donc restez toujours bienveillant. Et donc on pense d'ailleurs souvent que les handicapés mentaux sont des handicapés qui ont des problèmes de relations humaines. Mais on pourrait aussi se dire que nous-mêmes, on a parfois, enfin c'est pas forcément le cas, nous-mêmes on peut se sentir parfois handicapés parce que eux,
on sait pas comment communiquer.
On sait pas comment communiquer. Alors que eux finalement ils sont peut-être aussi très affectifs. Par exemple vous prenez le cas des personnes trisomiques qui vont pas hésiter à venir, comment dire, nous frapper sur l'épaule ou bien qui en fait qui peuvent être vraiment, il peut y avoir un contact vraiment très très sympathique qui se crée. Et c'est souvent nous qui sommes plus démunis que ces personnes. Donc en fait, il faut garder en tête que bon ben que rien n'est acquis d'avance, mais que disons faut garder cette bienveillance et puis vraiment avoir du recul. Il faut surtout en fait garder une estime de ces personnes et vraiment les estimer comme personnes à part entière, même si elles sont différentes. Cette spontanéité qu'elles ont finalement, elle est communicative et puis parfois justement on en a besoin aussi nous dans notre vie et c'est vrai que parfois ça fait aussi du bien d'être en contact de cette spontanéité.
Oui, peut-être que des fois on se met trop de normes qu'elles ne se mettent pas et la communication donc se fait plus facilement en fait.
Elle peut se faire effectivement plus facilement quand dès que on essaie de sortir du cadre on va dire normé dans lequel on vit. Ça on verra ça dans l'intervention de Lise Potier tout à l'heure quand elle nous reparlera de tout ça.
D'accord, et ben merci Luc. Donc après un extrait de Pink Floyd, nous vous proposerons donc cette interview d'une orthophoniste, donc Lise Potier. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles, our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, do they still be there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away. Small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. Of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide.
nous sommes allés interviewer une orthophoniste qui travaille en milieu gériatrique pour qu'elle nous donne finalement son point de vue sur la communication avec des personnes atteintes de handicap et notamment de démence psychologique. Bonjour Lise Potier, donc vous êtes orthophoniste ici au centre Spielmann.
Oui, c'est ça, bonjour. Donc moi je suis orthophoniste, donc j'interviens auprès des personnes âgées notamment qui sont porteurs de démence, donc par exemple des maladies d'Alzheimer. Et donc j'interviens notamment pour la communication.
D'accord. Dans le cadre donc de notre émission sur le handicap, est-ce que vous pourrez peut-être nous répondre à quelques-unes de nos questions ? D'après vous, est-il toujours possible finalement de communiquer avec des personnes atteintes de démence ?
Oui, alors je suis vraiment convaincue que toute personne atteinte de démence, quel que soit le degré de sévérité de la démence, reste une personne communicante. Alors il faut savoir que la communication, c'est seulement 20% par la parole, mais 80% par les mimiques et puis par toute la gestuelle. Donc il y a énormément de communication non verbale, et même si une personne ne peut plus s'exprimer par le verbal, par la parole, elle peut tout à fait communiquer par des expressions du regard, par des mimiques, par des touchés. Parfois elle répète toujours des petites syllabes, des choses comme ça qui ne paraissent avoir aucun sens, mais qui peuvent en avoir. Et donc il est toujours possible de rester en communication avec ces personnes.
Alors de notre côté, nous finalement, comment est-ce que nous on peut communiquer avec ces personnes ? Parce que ça paraît quand même parfois compliqué. Les personnes qui ne parlent pas ou bien qui... on a l'impression qu'on veut leur dire quelque chose mais elles ne répondent pas. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles puissent peut-être nous comprendre ?
Alors, cette question est vaste. Tout d'abord, je crois qu'il faut favoriser la situation, en fait, de communication, c'est-à-dire se mettre dans un endroit calme, éviter les grands groupes, se placer à hauteur de la personne, qu'elle n'ait pas besoin de lever la tête ou de se tourner pour nous regarder, qu'elle puisse s'accrocher à notre regard. Éventuellement, il faut établir le contact en lui prenant la main, tout doucement, si elle n'est pas contre, évidemment, le toucher. Et puis, il faut avoir une intonation de voix calme, posée. Ça joue énormément. Les personnes y sont très sensibles et comprennent parfois plus l'intonation, le regard que ce que l'on peut dire. Et puis ensuite, il est vrai que c'est parfois très difficile de communiquer parce qu'on a l'impression que ces personnes ne comprennent pas. Donc, il faut un petit peu adapter notre langage, faire des phrases courtes, simples, privilégier des questions fermées, c'est-à-dire au lieu de demander « que voulez-vous manger ?», plutôt préférer « est-ce que vous voulez de la viande ?» pour que la personne puisse répondre par oui ou par non, ou « est-ce que vous voulez du poisson ?» Enfin voilà, limiter un petit peu les réponses. Il faut essayer de reformuler aussi le plus souvent possible, parce que parfois certains mots sont perdus et puis un synonyme est compris, donc ne pas hésiter à reformuler. Et puis aussi, il faut essayer d'aider ces personnes-là à rester communicantes. Donc, parfois, il s'agit d'être leur prête-mot. Quand un mot ne vient pas, leur en proposer plusieurs, essayer de leur demander si elles nous parlent de botanique ou si elles nous parlent de cuisine. Voilà, essayer d'aider un petit peu la personne à retrouver le bon mot, à reformuler un petit peu ses phrases pour voir si c'est bien le message qu'elle souhaitait nous faire passer. Et puis quand il n'y a plus de communication verbale, eh bien on peut partager une promenade, on peut partager tout ce qui passe par le sensoriel, par l'ouïe, par l'odorat, donc aller sentir des fleurs, aller écouter le bruissement des feuilles dans un jardin. Enfin voilà, autant de moments partagés qui sont des moments de bonheur pour ces personnes-là et qui restent à mon sens vraiment des moments de communication.
En somme, la communication est toujours possible, si on le veut bien.
Tout à fait, oui. Et puis j'ajouterais juste une chose. Il faut essayer en fait de comprendre un petit peu où se trouve la personne. On sait que ces personnes démentes ont beaucoup de troubles de l'orientation temporelle et spatiale. Donc elles ne savent souvent plus en quelle époque nous sommes. Elles sont souvent plongées dans leur passé. Elles sont parfois dans d'autres lieux. Donc ça peut être souvent des scènes de guerre parce que beaucoup de ces personnes ont vécu la guerre. Et il est important de connaître un peu leur histoire de vie et d'essayer de comprendre où elles sont pour les rejoindre là où elles sont plutôt que de vouloir absolument les ramener avec nous.
Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention.
Donc après avoir passé en revue beaucoup de facettes du handicap et avoir eu quelques pistes de réponses pour savoir comment communiquer avec ces personnes, on va parler un peu de nos propres expériences. Alors, Luc, as-tu déjà eu des expériences avec des personnes souffrant d'un handicap ?
Oui, effectivement, j'ai ma cousine qui souffre de trisomie 21, et donc j'ai pu effectivement beaucoup m'entretenir avec elle, vivre avec elle aussi, et c'est aussi comme ça que pour moi, finalement, ce handicap est venu quelque chose d'un petit peu normal dans ma vie. C'est d'être au contact d'handicapés comme ça dans sa famille. Après, on a peut-être moins d'appréhension parce qu'on comprend mieux, la manière de s'exprimer des personnes. Et du coup, il n'y a plus du tout aucune raison d'avoir des appréhensions.
Donc la communication se fait plus facilement.
La communication se fait...
Plus naturellement.
Se fait naturellement, en fait, par rapport à cette cousine, parce que je la vois souvent depuis que je suis vraiment petit. Et dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai pu communiquer avec elle. Et pour moi, c'était un peu comme une grande sœur, même si, elle réagissait parfois aussi comme un enfant, parce que bon, la trisomie 21, voilà, c'est un peu délicat. Mais c'est aussi un handicap qui est relativement facile entre guillemets pour les personnes qui sont autour, parce que les personnes sont quand même très affectueuses. Le contact peut se faire très facilement comparé à d'autres handicaps l'autisme ou bien où les handicapés peuvent vraiment faire preuve d'un certain mutisme ou bien de réactions un peu violentes ou désordonnées que l'on n'arrive pas vraiment à mesurer.
Arnaud, tu...
Oui, donc moi quand j'étais au collège, j'avais dans ma classe deux personnes qui étaient handicapées moteurs. J'avais quelqu'un qui avait ses membres inférieurs paralysés, donc il se déplaçait uniquement en fauteuil roulant. Et une autre personne atteinte de nanisme. Donc, on a remarqué que ces personnes étaient un peu à part. Par exemple, pendant le sport, elles ne pouvaient pas participer avec nous. Dans la classe, elles avaient toujours une place attitrée pour elles. Donc, elles devaient toujours être devant. Donc, ils ne peuvent pas choisir leur place. Donc, forcément, ni leurs copains, etc. C'est un peu compliqué pour elles.
Au niveau du dialogue, elles n'étaient pas beaucoup intégrées dans la classe?
Si, quand même, parce qu'il fallait, par exemple, celle en fauteuil roulant, il fallait quand même le déplacer, donc ça installait un dialogue.
Il y a un lien qui se crée, donc.
Un peu de complicité, comme ça. Voilà.
Et toi, Michael?
Donc, moi, je suis aussi confronté, dans mon entourage, donc c'est mon grand-père qui atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc, la communication est encore possible, mais difficile. Pour reprendre une des caractéristiques de cette maladie, c'est qu'il n'a plus du tout la notion du temps et de l'espace. Par exemple, il habite à Écourt. Il habitait pendant très longtemps près de Verdun. Et quand je lui rends visite, il est persuadé que nous sommes à Verdun alors qu'on est à Écourt, donc près de Nancy. Par rapport aux notions de temps, je peux lui poser la question, qui est le président de la République? Il va me répondre que c'est le général de Gaulle. Il a encore beaucoup de mémoire sur son passé, et à partir des années 80-90, ça devient beaucoup plus confus.
Plus flou.
Voilà, il a 80 ans, donc
d'accord.
Il peut, par exemple, dans une conversation, il va me demander ce que je fais, donc je lui dis, voilà, je suis dans une école pour devenir prêtre, et il va me poser la question 7-8 fois... sur une période courte, une demi-heure. Et puis après, il va me demander où se trouve ma femme, par exemple. Donc,
Est-ce qu'il n'y a pas des fois une confusion de génération? Parce que je sais que mon grand-père, qui était atteint aussi d'Alzheimer, des fois confondait les générations, même ses enfants avec ses parents. Enfin, il y avait un problème, justement, au niveau de la mémoire. La mémoire récente disparaissait, et du coup, il restait sur des souvenirs antérieurs, et quand il voyait les personnes, il avait du mal à situer les générations.
Oui, c'est le cas pour mon grand-père. Il ne saura plus si je suis son petit-fils ou le fils de sa fille, ou voire même son mari. Mais de ce côté-là, là-dessus, c'est très sensible.
Mais ce que j'ai remarqué, c'est quand même que La communication passe, même si c'est plus difficile. Moi, avec mon grand-père, j'ai toujours été très proche et donc j'ai beaucoup discuté avec lui quand j'étais plus jeune. Et quand il a été atteint d'Alzheimer, ça m'a beaucoup touché parce que j'avais du mal à dialoguer. Et effectivement, la mémoire courte passait pas, donc il me reposait les questions 3, 4, 5 fois. Il avait peut-être une minute de mémoire. Enfin, c'était assez difficile. Mais je sais que avant de mourir, il a revu ses 5 enfants la veille de mourir et il est parti apaisé. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe et donc il faut continuer de communiquer.
Oui, la communication de toute façon, c'est ce qui est le plus important, surtout pour ces, comme on nous dit, faut surtout pas marginaliser ces personnes atteintes de différentes maladies déficientes.
Eh ben, merci à tous, merci pour les partages d'expérience et donc on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Grand Large.